fuerte que casi se paró mi papita. Ay, ay, mamichita, soy de los del campo, vámonos pa'l grano. En mi chakra hay amor y chacha, pura buena vibra, como el chacha a lo tranqui, con plantita hippie. Relájate, mija, puro chilling, baby. Ahí va, me enlan a hablar y a gozar, vámonos a volar por allá, donde se duerme el sol.
Il est 11h, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4. Tout de suite, Livre et Amis, votre émission en direct animée par Dominique et Françoise. Bonne écoute.
A song that comes from Tanzania.
Bonjour. Galère, galère, bonjour. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de l'émission Livres et Amis. Nous sommes le 11 octobre. Dominique et Françoise au micro, Margot à la technique. Nous reprenons aujourd'hui pour la deuxième partie le livre de Sorge Chalandon, Le quatrième mur. Un livre que j'avais choisi parce qu'il parle du conflit du Proche-Orient, de la guerre au Liban, mais en présentant une vision de la volonté de paix que les combattants peuvent garder. Dans le livre, la volonté de paix, c'est celle qui réunit deux metteurs en scène et une troupe d'acteurs issus de toutes les communautés en présence pour la représentation d'Antigone d'Anouilh. Mais l'actualité nous a rattrapés. Non pas l'actualité culturelle de Marseille, dont on vous trace habituellement un bref panorama avec ses films, ses expositions ou ses pièces de théâtre, justement. Non, ce qui nous a rattrapés, c'est l'actualité tout court, l'actualité brutale du Proche-Orient avec la reprise de la guerre autour de la bande de Gaza. Les Gazaouis sous les bombes, comme toujours, mais cette fois dans un conflit qui fait les gros titres, puisque les combats atteignent aussi Israël. 3000 morts en 5 jours, Notre lecture sur une rencontre théâtrale pacifique au Liban peut paraître bien ridicule. Nous allons tout de même la reprendre, puisque dans la partie du livre que nous lisons aujourd'hui, les belligérants déposent les armes, le temps de quelques répétitions et d'une représentation. Utopique peut-être, mais tout de même. Le temps d'une heure d'émission, déposons les armes et revenons à l'espoir pacifiste d'un cessez-le-feu. Donc, dans le livre de Sorge Chalandon, oui, alors le règlement du conflit, là, vous voyez, moi, je suis peut-être utopiste, mais en parler aujourd'hui, j'oserais pas. Donc, cessez-le-feu, c'est déjà difficile. Je n'irai pas plus loin. Donc, vous vous souvenez que dans le livre de Sorge Chalandon, le héros s'appelle Georges. Et Georges, c'est le metteur en scène français qui part pour Beyrouth rencontrer des acteurs déjà recrutés par Sam, le metteur en scène grec, lui, à l'origine du projet de la représentation d'Antigone, mais trop malade pour mener à terme le travail. On revient donc retrouver Georges juste à son départ pour le Liban. Il nous reprend l'histoire de sa nouvelle rencontre, on pourrait dire, avec Antigone et de son départ.
J'ai relu Antigone, bouleversée, notant des phrases pour les dire à voix haute. Antigone, donc. L'histoire de la petite maigre, fille d'Œdipe et de Jocaste, souveraine de Thèbes.
Donc, oui, c'est la petite maigre, c'était l'expression de Hanouille, l'expression qu'il reprend souvent pour qualifier Antigone, parce que dans la famille, il y a deux jeunes femmes, Antigone, la petite maigre, qui ne fait rien pour séduire les hommes, et Ismène, la jolie femme, qui, elle, met beaucoup de prix à sa séduction. Alors, Antigone, on l'appelle la petite maigre pour dire qu'elle est moins séduisante à une époque où peut-être il fallait que les femmes soient un peu plus en chair que dans les années 60 ou dans les années 80. Et Antigone comme Ismène sont en effet les enfants de Œdipe et Jocaste. Vous savez quand même, Œdipe qui a tué son père et épousé sa mère Jocaste. À la révélation du, entre guillemets, scandale, Œdipe se crève les yeux et part sur les routes de l'exil. Jocaste se pend. Donc, la tragédie de Antigone se situe après cela.
Après le suicide de la mère et l'exil du père, leurs deux fils luttent à mort pour le trône. À mort vraiment. Aucun ne survivra. Créon, frère de la reine défunte, devient alors le roi. De ses neveux, il disait préférer Étéocle à Polynice. Il ordonne d'inhumer le premier avec les honneurs, refusant de porter le second en terre. Mieux encore, il publie un édit royal condamnant à mort quiconque osera honorer le corps, abandonné au soleil et aux charognards. Il veut laisser ce renégat, ce révolté, ce voyou, sans pleurs ni sépulture. Polynice avait voulu faire assassiner Œdipe et Créon le savait. Un matin, l'un des gardes qui veille le corps remarque que la terre a été grattée tout autour, puis déposée sur le cadavre selon les rites, lui offrant un linceul de poussière. Créon est hors de lui. L'un de ses sujets vient de l'offenser. Un traître a offert aux parias les honneurs funèbres. Dans un fourré, le garde trouve une pelle d'enfant, petite et rouillée. À midi, Antigone est prise. Elle est revenue achever le cérémonial, seule, de la terre sous les ongles, les genoux écorchés. Ismène ne l'a pas suivie. Sa sœur, tellement plus jolie qu'elle, a tout fait pour la faire renoncer. Créon est ému par la terrible nouvelle. Antigone est sa nièce aimée, qui doit épouser Aimon, son propre fils. Alors le roi lui propose d'oublier, de garder le secret. Tout peut se régler avec une gifle et du pain sec. Mais Antigone refuse. « Tu es l'orgueil d'Œdipe, gronde Créon. » Elle répond, « Ne pas croire au bonheur. Elle ne peut pactiser avec la vie. Elle souhaite la mort et l'attend. » Mortifié, Créon la livre aux gardes qui l'enterrent vivante. Mais au moment de sceller le tombeau, le roi apprend qu'Aimon, son fils, s'est laissé enfermer avec elle. Il déblaye en hâte les boulis de roche, trop tard. Antigone s'est pendue au fil de sa ceinture et lui fond comme un collier d'enfant. Aimon la tient dans ses bras. Il pleure. Voyant dans la pénombre les cheveux d'argent de son père, il se lève, une épée à la main. Créon recule. Son fils lui lâche un regard de mépris et plonge le glaive dans son propre ventre. Créon a tout perdu. Reste Eurydice, sa reine, sa femme, qui tricote à l'infini pour les pauvres de Thèbes. Mais lorsqu'il la rejoint, le cœur délabré, il ne trouve qu'un corps. Après avoir terminé son rang de maille, elle a posé ses aiguilles. Elle s'est couchée sur le lit de son enfant mort, au milieu des peluches. Elle s'est tranchée la gorge. Elle souriait lorsque Créon est entré.
Et Créon dit, elle aussi, « Ils dorment tous, c'est bien. » La journée a été rude, cela doit être bon de dormir. Donc en fait, c'était le résumé, si on peut dire, de la pièce d'Hanouille. Et c'est cette pièce que Georges va désormais mettre en scène.
J'ai refermé le livre. J'étais prêt pour la petite maigre, prêt à accueillir en moi cette victime choisie par le destin, prêt aussi à me soumettre à ce devoir fraternel. Je ne connaissais d'elle que son refus de vivre. Je ne savais de moi que mon envie de vivre.
Et donc, je me souvenais de Sophocle. J'ai acheté son Antigone, j'ai acheté celle de Brecht et la traduction de Hölderlin aussi, dont il s'était inspiré. Dans le carnet de théâtre, Sam avait noté « Antigone, ici et maintenant ». Né en Grèce, imaginé entre les mains du Reich ou joué dans Paris occupé, Antigone était de tous les temps, de notre actualité. Sam avait aussi noté « Pas de costume de scène, chaque acteur dans ses vêtements de ville. On doit avoir l'impression d'assister à une répétition, de voir les acteurs arriver sur leur plateau directement de la rue. On doit être surpris par le décalage entre le texte et l'habit. Pour la représentation de la pièce à l'atelier en 44, Antigone était en robe de soirée noire, avec une croix au cou. Créon était en habit avec un gilet, un nœud papillon et des souliers vernis. Mais les gardes portaient des gabardines et des chapeaux mous, un peu comme les hommes de la Gestapo. L'effet recherché, c'était qu'on n'était pas à Thèbes, mais à Paris occupé en hiver. La pièce doit parler au présent. Et donc, à Beyrouth aussi, la pièce doit parler au présent. De page en page, Sam cherchait et trouvait des directions pour le spectacle, des remarques anciennes, des remarques récentes. Il avait longtemps travaillé sur le texte. Il savait à un moment donné, l'année dernière, qu'il passerait la main. Son écriture était fine, penchée, c'était un peu un testament théâtral. Il avait écrit pour moi, j'en étais persuadée. Il ne faut pas confondre le Créon brutal de Sophocle et l'homme plein d'amertume dessiné par Anouilh. Chez Sophocle, Créon est un personnage tragique. En fait, chez Anouilh, c'est Antigone qui porte la tragédie. Donc ça, c'est ce dont il fallait que je me souvienne en arrivant à Beyrouth, c'est Antigone qui porte la tragédie. Alors, avec son carnet, ses notes, ses croquis, Sam m'a donné aussi les lettres de motivation que les acteurs du Liban lui avaient écrites pour interpréter la pièce, avec leurs noms et leurs adresses. Tout était écrit et en français. Ils avaient en fait mis quelques mots pour certains, de vraies argumentations pour d'autres. Ils avaient quelquefois joint un CV. C'était des papiers un peu froissés, de jeunes écritures, mais tout cela était vivant, tout cela existait. Antigone, d'une part, Créon, d'autre part, avait joint une photo à leur courrier. Imane était jeune, mince, avec un voile bleu tiré en arrière sur des cheveux roux. Je l'ai trouvée très jeune, 20 ans à peine, étonnamment et violemment belle, une peau très blanche. Trop belle peut-être pour la petite maigre, mais... peu importait. Il allait falloir appauvrir ce visage, avait écrit Sam au dos de la photo. Et en route, bah oui, il faudra aussi réfléchir à cette relation de Imane Antigone avec tous les autres autour d'elle. Et on avait pour l'interprétation d'Antigone par Imane l'accord de son frère Yacine, un combattant du Fatah. L'interprète de Créon, c'était Charbel. Charbel, lui, devait avoir à peu près 30 ans. Et c'est vrai qu'il lui en fallait 30 ans de plus pour la pièce. Donc, il faudrait le maquiller, lui faire des cheveux gris, une belle dureté. Parce que ce jeune homme avait déjà un visage de granit et un regard inquiétant. On ne savait pas s'il avait posé pour le rôle ou s'il était vraiment comme ça au naturel. Enfin bon, j'ai pris les photos, je les ai mises à côté l'une de l'autre. Antigone, Créon, Imane, Charbel. Ce serait le départ. Restaient sept autres acteurs, encore un peu fantômes, à découvrir. Alors, oui, bien sûr, je partais à Beyrouth, je partais pour Beyrouth, et je m'appuierais sur les accords donnés déjà à Sam, par l'OLP, par les chrétiens, par les druzes, par les autres combattants qui tous avaient dit qu'en effet, ils souhaitaient participer à ce spectacle, même pendant les combats, mais surtout pour arrêter les combats. Et puis j'ai pu avoir au téléphone Imane, l'interprète d'Antigone, et elle m'a dit « Oui, je suis prête ». Alors, Imane était prête pour Antigone, il allait falloir rencontrer les autres et tout construire. En arrivant, vous vous souvenez peut-être, Georges rencontre son chauffeur, Marouane. Marouane, on l'avait déjà rencontré dans la première scène et on le retrouve ici.
Yorgos ? L'homme avançait vers moi, bras ouverts. J'ai secoué la tête. « Pardon, non, je m'appelle Georges et je suis français. » Marouane a éclaté de rire. « Comme Georges Alakim Abash, le terroriste palestinien ?» Il avait ma photo. La regardait brièvement, puis m'a tendu la main. « Je suis Marouane, ton chauffeur. »
Donc c'est Marouane, oui, c'est Marouane. Et pour Marouane, Georges, c'est Georges Abash, le leader du FPLP. C'est un peu rigolo comme accueil, mais on sait qu'ensuite tout va bien se passer entre Marouane et Georges. Marouane sera finalement l'intermédiaire qu'il fallait pour Georges dans ce Liban plein d'hostilité.
Je suis Druze, a souri Marouane. Il m'avait cueilli sur le tarmac à ma descente d'avion. D'un geste, il m'a extrait de la file des passagers pour que je le suive. Nous sommes arrivés devant une porte gardée par un soldat, ou un milicien, je ne sais pas. L'homme avait un bandeau dans ses cheveux longs, une veste de treillis et un jean. Son fusil d'assaut était crosse en l'air, passé dans son dos. Marouane lui a serré la main. L'autre a ouvert la porte, nous étions devant le tapis à bagages. « Donne-moi ton passeport et occupe-toi de ton sac. » Marouane m'a rendu mon passeport tamponné. Sa voiture était garée devant l'aéroport sur un trottoir, une Mercedes noire couverte de poussière ocre. La mer d'un côté, les immeubles dans la brume, les montagnes au loin, une fraîcheur de printemps. Il s'est installé au volant. Marouane m'avait installé pour 15 jours à l'hôtel Cavalier, dans le centre de Beyrouth. L'établissement était druze, tenu par des druzes, et mon hôte vivait à une rue de mon lit. Le soir de mon arrivée, nous avons parlé argent. Il devait le faire, et ce serait fait. Sam s'était magnifiquement débrouillé. Ma chambre, mes repas, mes déplacements étaient pris en charge par une association d'action artistique sous tutelle du ministère de la Culture et des Affaires étrangères. Tout comme les frais engagés pour les acteurs, repas, transports, hôtels en cas de fermeture de la ligne, Marouane était payé au mois et en secret par un fonctionnaire de l'ambassade de Grèce qui avait connu la prison des colonels. J'ai eu 100 fois cette conversation avec Samuel. Le Liban crève de tout. On doit se battre pour obtenir des cahiers d'école, pour l'électricité, l'eau, le pain, pour reboucher les routes défoncées. Vous, vous arrivez de France avec une pièce de théâtre et toutes les portes s'ouvrent. Vous n'avez qu'à claquer les doigts pour être reçu dans les ministères. Ça ne me dérange pas, non. Je crois simplement que Samuel et toi pensez plus à vous qu'à notre peuple. En fait, je n'ai toujours pas compris ce que votre théâtre venait faire dans notre pays. La paix ? Il en faut bien plus. Vous divertir une heure ? Alors merci bien, mais n'en rajoutez pas. Il t'a expliqué la situation ? Non, un peu, pas grand-chose. Il y avait des tirs sur la ligne de démarcation, des escarmouches dans le sud, de la tension dans le nord. Je savais aussi que les acteurs ne s'étaient jamais vus. L'un d'eux n'avait même pas osé passer à l'ouest pour la répétition. Et les autres hésitaient à faire le premier pas. Marouane approuvait. « Tu comptes t'y prendre comment ?» J'avais beaucoup réfléchi. Pour ce premier séjour, je voulais avoir les acteurs séparément et leur offrir un exemplaire d'Antigone. Sam avait tapé la pièce pour eux sur stencil, puis l'avait renéotypée comme nous le faisions de notre acte. Et je voulais qu'ils aient un livre en main. Je voulais rencontrer Imane. Je lui avais parlé. Elle se disait prête. Je sentais qu'elle serait un guide. Et puis, c'était elle, la petite maigre, Antigone. Sans...
La petite maigre, Antigone, oui.
C'est
oui.
ce que j'ai dit, oui. Sans elle, mais effectivement, la liaison n'était pas fluide, parce que c'était un mot en plus rajouté. Sans elle, rien ne pouvait se faire. Elle était à la fois le départ et le socle. Ensuite, je voulais entendre Charbel.
Créon.
Il lui demandait s'il acceptait de jouer vraiment ou si tout cela n'était qu'un rêve de fièvre. Les réponses d'Antigone et Créon décideraient de la suite. S'ils acceptaient, je continuerais. J'irai voir les chiites d'abord, essentiels dans la symbolique communautaire. Je comptais sur Marouane pour le druze. Parler de paix à une catholique et de survie à une arménienne ne me semblait pas insurmontable. J'avais décidé de les rencontrer en dernier.
Oui, donc c'est toute une stratégie, là, ce dont on vient d'avoir les références. C'est toute une stratégie de la part de Georges pour effectivement rencontrer les différents acteurs des différentes communautés. On le retrouve à Beyrouth, en plein dans ce conflit des communautés, conflit qui est souvent armé et qui, même lorsqu'il y a moins de tirs, peut dresser les hommes ou les femmes les uns contre les autres très rapidement à la moindre étincelle. Donc, dans les chapitres qui vont suivre, il s'agit effectivement pour Georges de rencontrer d'abord Imane qui joue Antigone, puis Charbel qui joue Créon, mais pour des tas de raisons, il va finalement le rencontrer à la fin. Et entre les deux, les autres acteurs qui viennent des autres communautés et qui chaque fois, enfin disons que chaque rencontre à chaque fois va être une véritable aventure puisqu'il faut franchir la ligne de front, franchir les zones où se trouvent les snipers. Et au fil des pages et des rencontres, on a vraiment un compte-rendu, si on peut dire, de ce climat de guerre permanente qui se trouve à Beyrouth à ce moment-là, qui a perduré et qui nous donne une idée, en effet, de ce qui se passe au Proche-Orient, même quand on n'est pas complètement dans une période de guerre comme en ce moment. Donc, je vais vous lire la suite qui est la préparation de la rencontre avec Imane et cette rencontre même. La rue était étroite, défoncée, inondée par endroits. Voitures, camionnettes, charrettes à bras, klaxonnes pour rien, étals de fruits, de cigarettes, de parfums frelatés. Tout ici ressemblait à Beyrouth en plus pauvre, en plus triste, en plus désorienté. Oui, en fait, il s'agit d'aller vers le camp de Chatila. Sur la plage arrière et contre le pare-brise de sa voiture, Marouane le druze avait installé deux bandes découpées dans un keffieh. Il s'était arrêté à l'entrée du camp de Chatila pour les déposer, bien à vue, négligemment, comme un homme qui s'était débarrassé de sa coiffe pour conduire. Sans doute que l'artifice ne trompait personne, mais c'était un gage de demande de bienveillance. J'ai eu le cœur serré. Pour la première fois de ma vie, je voyais un vrai drapeau palestinien, une guenille lacérée, pendue au fer forgé d'un balcon. C'était l'entrée du camp. Je n'avais pas de mots pour cet endroit. Ni quartier, ni ville, ni bidonville, ni ghetto, mais quelque chose de tout cela. Une espèce de boyau monotone, de petits immeubles gris, de maisons basses, d'impasses défoncées, de murs écorchés, de béton brut, de fenêtres borgnes, de panneaux de tombes ondulés, de boutiques misérables aux rideaux de fer souvent béants. Des fils électriques qui rayaient le ciel, des centaines de fils électriques pendant d'une fenêtre à l'autre, d'un toit au suivant, parcourant les rues, parfois à hauteur d'homme, avec dans certaines impasses des nœuds, des réseaux de câbles tels que ça pesait sur les poteaux. Et puis sur les terrasses, des barbelés piquetés de lambeaux, des lambeaux de papier, de plastique, des ballons crevés. Nous roulions fenêtres ouvertes. Tout à coup, Marouane s'arrêta. « Fedaïn » a-t-il murmuré. Trois bidons d'essence barraient la rue. Ils avaient été gavés de ciment et disposés en chicane. décorée de portraits en couleur de Yasser Arafat. Assis sur l'un d'eux, un homme, fusil d'assaut entre les jambes. Il s'est levé, actionnant la culasse. Deux autres étaient contre les murs latéraux, assis sur des chaises de plastique. « You speak English ?»« Un peu, little », j'ai répondu, enfin comme tout le monde. Marwan est venu se placer à mon côté. Son regard allait des uns aux autres. Il n'avait pris aucune distance avec moi, au contraire, et nous faisions corps. Et ce jour-là, oui, bien sûr, j'ai été rassurée. Mon Druze n'approuvait pas la pièce de théâtre, il m'avait reçue avec méfiance, mais il tiendrait la parole donnée à Samuel. Il n'aimait pas forcément Antigone, mais il la respectait. Et la pièce, il ferait tout pour qu'elle ait lieu. Alors mon Druze a repris la parole. Il parlait, montrant sa voiture, moi, son passager, son cœur, et je l'ai entendu dire « Antigone ». Enfin, je crois. Et le fedaï a interrogé son chef. L'autre a eu un regard indulgent, il a hoché la tête. Nous sommes passés. « Alan Wassalan », a lancé le Palestinien en ajustant son keffieh. « Eh oui, bienvenue ». Cette phrase prononcée par mon Druze à l'aéroport et ici par le fedaï, je l'entendrai à nouveau plusieurs fois. J'avais une nouvelle terre devant moi et une nouvelle famille, les Libanais. L'un après l'autre, les combattants sont venus me tendre la main. J'ai offert les deux miennes et je suis passée. J'avais eu peur, je m'en rendais compte maintenant, et la vie revenait. Mon cœur chuchotait et se remettait à battre. « Yalla Shabab !» a lancé le Palestinien. « Allez, on y va. Bienvenue à Shatila. » Alors Iman, oui, elle était là, je l'ai rencontrée. Elle a relevé son foulard blanc pour cacher ses mèches fauves. Je l'ai observée, elle a détourné les yeux, mais elle a souri. Nous étions finalement très nombreux dans l'obscurité de cet immeuble, de ces deux immeubles délabrés, des deux côtés d'un terrain vague transformé pour une heure en scène de théâtre. On pouvait se poser la question, pas d'estrade, non ? Un vague portique bricolé dans la poussière. La Palestinienne était assise de côté, sa main cachait ses lèvres. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ah ben oui, elle traduisait le poète Mahmoud Darwish en attendant que le récitant finisse sa phrase. En fait, les acteurs étaient des enfants. Ils étaient venus de Sabra ou de Shatila. « Je suis leur institutrice », m'a dit Iman. « Et vous ? Vous êtes venus faire la paix au Liban ?» Ce n'était pas elle qui partait, c'était un autre homme, assis là, dans l'ombre. Il ne se moquait pas. « Vous êtes venu faire la paix au Liban ?» Il voulait juste m'entendre. Alors j'ai souri. « Je veux donner à des adversaires une chance de se parler. » Des adversaires ? Des ennemis ? Oui, enfin, ben oui. Et vous comptez que c'est en récitant un texte qu'ils vont s'arrêter de se tirer dessus. Oui, c'est un travail à faire ensemble, un travail à faire autour d'un projet commun. Il a rectifié la bretelle de son fusil d'assaut. C'est une forme de répit, alors. J'ai bien aimé le mot. J'ai dit oui. Le théâtre, ses répétitions et cette représentation de théâtre, ça serait un répit. Il va donc, notre Georges, aller rencontrer les autres acteurs dans les autres communautés de Beyrouth. Mais avant, nous allons écouter des artistes palestiniens, peut-être les plus connus de la scène palestinienne actuelle, le trio Djoubran. Et donc, c'est Margot qui nous les fait entendre.
Mmh. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها
C'est vrai qu'on les entend dans le monde entier, on les apprécie toujours, donc j'espère que vous aurez apprécié aussi. On va reprendre notre lecture avec Georges, qui va cette fois en zone chrétienne. Il va chez les chrétiens chercher l'autorisation du frère de Charbel pour le laisser jouer crayon. Chez les chrétiens, en effet, c'est une société très hiérarchisée, très militarisée. Et donc, Georges a besoin de l'autorisation du chef de la tribu, pourrait-on dire, pour que, en effet, Charbel puisse jouer dans la pièce. Et ça commence par un contrôle assez musclé. Et puis, voilà, vous allez avoir le déroulé de la scène.
Pendant le trajet, je te demande le silence, dit Marouane. Il m'a expliqué que nous serions à découvert pendant 8 minutes, en danger de mort, que nous passerions dans l'œilleton de tous les snipers de la ville. D'abord des chiites et des nassériens qui occupaient la tour Mir, un immeuble en construction de 40 étages que la guerre avait abandonné aux combattants. Ensuite, les fusils nous suivraient tout le long du sérail et de la place des canons. On ne sait jamais ce que va faire un doigt sur la détente. En arrivant au carrefour de Sodeco, nous risquions d'être pris pour cible par les tireurs chrétiens, ceux embusqués dans la tour Rizk qui surplombe. Achrafieh et ceux qui protègent la Maison Jaune. Marwan a posé la main sur mon épaule. Qu'a dit le Kataeb exactement ? Le frère de Charbel ? Oui, il a dit quoi ? Il a dit qu'il ne contrôlait pas tout. C'est lui qui t'a dit ça au téléphone ? Oui. Mais il ne t'a pas interdit de venir ? Non. Il m'a même dit d'arriver à Sodeco avant 8 heures. D'un coup de pied, Marwan a sondé la roue avant de sa voiture. Il a accroché un morceau de drap blanc à l'antenne de son autoradio et au poignet des portières. Il respirait fort, parlait arabe pour lui-même, avait des gestes de colère pour rien. « Je n'ai plus l'âge », a dit Marwan en m'ouvrant la porte. Il a bu une bouteille d'eau au goulot, m'a demandé encore une fois de me taire pendant le trajet. Lui parlerait, c'est tout. « Je ne veux pas que tu respires. Je suis seule dans la voiture. Tu m'entends ?»« Pourquoi ?»« Il m'a regardé. Je ne veux pas me souvenir que tu es là. Risquer sa propre vie est bien suffisant pour un homme. » Il s'est assis à l'avant, m'a ordonné de me coucher derrière, sur le tapis de sol, entre le devant de mon siège et le dossier du sien. « Mais pourquoi maintenant ?» Il a frappé son volant à deux mains. « Atafirou, Allah ! Pardon, mon Dieu !» Il est sorti brutalement. Il a claqué la portière et m'a tourné le dos à grands pas. « Marwan !» j'ai crié. Je m'en suis voulu. Il s'est arrêté au milieu de la rue. Puis s'est retourné sans un mot. Il est revenu. La rue était déserte. Le jour se levait. Nous avons roulé doucement, plus vite, jusqu'au pont autoroutier. Entré sur le ring, notre voiture s'est emballée. J'ai eu la sensation d'un avion au décollage. J'ai fermé les yeux. Nous roulions en cercueil rouge, offert à toutes les balles de la ville. J'ai paniqué. Mon ami aurait dû repeindre sa voiture en guerre, en bitume, en rien. « Tourmure !» a soufflé le druze. J'ai ouvert les yeux, me suis soulevé légèrement. Le bâtiment était sur la droite, rectiligne, immense dans le ciel. Ses fenêtres de mort nous épiaient. J'ai fermé les poings, j'ai attendu, pas un tir. Seul le bruit du moteur. Que Dieu nous protège. Marwan conduisait en lacets serrés. D'autres chocs, un sifflement, un bruit de cinéma, la guêpe brûlante dont parlent les livres. La vitre arrière a éclaté, pluie de verre. J'ai arraché 2 coussins au siège pour me recouvrir la tête. On est dans la ligne de la tour Rizk. J'attendais une nouvelle salve, mais rien. Le moteur hurlait. Nous sommes sortis du ring tandis que 2 voitures y entraient, klaxons enfoncés, et aussi une ambulance qui hurlait. Marwan a ralenti. Carrefour Sodeco. Il a arrêté la voiture, s'est garé sur un trottoir gagné par les herbes, tête jetée en arrière. 2 chauffeurs de taxi étaient là, assis sur leurs talons. « Tu peux descendre, Georges. » Marwan me tournait le dos. Il ouvrait un sachet de pain. Il tremblait. Je claquais des dents. Nous avions fait un bout de chemin avec la mort. Je suis sortie du taxi, main levée, sac à bout de bras, retenu par la lanière. 2 phalangistes étaient embusqués derrière des blocs de béton, protégés par la carcasse d'un bus calciné. L'un d'eux a hurlé au taxi de libérer le carrefour, puis m'a fait signe d'approcher. Arrivé à 10 mètres, il m'a ordonné de m'agenouiller, de croiser les mains derrière la nuque. Il s'est approché lourdement, fusil d'assaut braqué. Sur son bras de chemise, un cèdre entouré de 2 sabres. Son camarade me tenait en joue, accoudé à un sac de sable. Un ordre de loin, un cri, des tirs en rafale. « Sean Badik ?»« Français, French !» Le chrétien s'est approché. Il a levé la main en agitant ses doigts. « Passeport !» Je me suis levée, main sur la tête. Le chrétien a sorti un émetteur de son sac. Il a donné mon nom. J'ai compris le mot français,
Nous avons marché vers la ligne verte. La végétation s'était emparée du quartier désert. Profitant de l'absence des hommes, l'herbe folle avait tout envahi. Elle s'était saisie des rues éventrées, des remblais de terre, du sable. Des ronces coulaient des balcons lacérés. Un pin, né du bitume, s'adossait à un mur. Des arbustes, des épineux, des fougères géantes, des ficus occupaient le milieu du carrefour. Les trottoirs semblaient des collines tourmentées. Le long des murs, des écriteaux à tête de mort rappelaient que tout était miné. Sur le trottoir en face, une superbe maison jaune de 3 étages, l'immeuble Barakate en dentelle de guerre. Dans les rues alentour, 2 jeeps des forces libanaises, une mitrailleuse installée sur une camionnette. Pour traverser la place, encombrée de douilles et de débris, nous avons couru. Eux devant, moi derrière. J'avais cessé de les divertir. Un homme m'attendait sur le seuil criblé, derrière les chicanes de béton. Veste de treillis, lunettes de soleil, béret noir, pistolet passé dans la ceinture. Il m'a souri largement en descendant les marches éventrées. Cette maison n'était pas une ruine de guerre, elle était la guerre. De la terrasse au sol, les combats l'avaient martelée comme un plateau de cuivre. Pas un pouce intact. Partout, sur ces colonnes fragiles, ces balcons, ces fenêtres romanes, les pointillés des rafales, les impacts des tirs de précision, les écorchures des grenades, les déchirures des roquettes, les cicatrices ouvertes par les mortiers. Dans le soleil, le vent, les décombres d'une arène antique. L'homme a regardé sa montre. 8h10. Mes hommes vous ont retardé, j'en suis désolé. Ils m'ont humilié. La vie revenait, elle labourait mon corps. Ce sont des taureaux que vous avez agités le chiffon rouge. Vous saviez que je viendrais, je vous avais fait confiance. Toujours son sourire. Mais vous avez eu raison et vous êtes toujours en vie. Il m'a tendu la main. Joseph Boutros, frère de Charbel. Je l'ai suivi sous le porche, puis dans la cour intérieure. C'était un labyrinthe de pièces vides, immenses, accablées d'impact. Un palais majestueux. Lorsqu'ils passaient devant les fenêtres béantes, les combattants baissaient la tête. Ils avaient empilé des sacs de sable jusqu'au plafond. « Tu as la permission de minuit ?» Le frère m'a parlé sans se retourner. Il traversait les salles, se glissait dans les trous des murs. « Je dois être dehors à 8h demain. » Nous avons longé des barrières de fer forgé, monté des marches, j'ai passé la main sur une mosaïque écaillée. « Art déco », a dit le milicien. « C'est incroyable, non ? Il reste des carrelages des années 30, des peintures, des arcades en bois, des morceaux de colonnes en marbre. C'est l'un des plus beaux immeubles de Beyrouth. Il a été construit en 1924, terminé en 1932 et détruit en 2 mois. » Il a ouvert une porte lacérée pour me laisser passer. C'était une pièce sombre. Les fenêtres avaient été murées par des parpaings. Les fils électriques étaient arrachés des murs, laissés partout des tranchées béantes. Il s'est assis dans un fauteuil, m'indiquant le canapé défoncé. Avec précaution, il a posé son pistolet sur la table basse, un Colt 45 de l'armée américaine, nickelé comme pour la parade. Il avait décoré sa crosse d'ivoirine brillante, quadrillé frappé du cèdre des phalanges. Dans cette pièce, comme partout, le sol était jonché de gravats, de papiers, de reliefs de table. Des journaux couvraient les murs. La porte s'est ouverte, un jeune homme a passé la tête. Parle-moi d'Antigone. Voix tranquille, il m'étudiait, dos au mur, étirant ses bras au plus haut. J'ai ouvert mon sac. Antigone a été écrit par... Arrête, je sais ça. Parle-moi de ton projet. J'ai inspiré en grand. Ça y était. C'était là maintenant. Tout ce que j'avais construit en tête, en ventre. Tout ce que j'avais écrit, répété, préparé pour les acteurs, c'était le moment. Je pensais que le phalangiste serait le dernier à m'entendre. Il était le premier à m'écouter. Alors je lui ai raconté à Nouille. Je lui ai avoué Samuel. J'ai expliqué que mon ami avait eu l'idée de voler 2 heures à la guerre, en prélevant un cœur dans chaque camp. Un soldat maronite est entré, un plateau à la main, du pain, une purée de fèves et un bol de taboulé. Il y avait 2 assiettes. J'étais son invité. Nous avons mangé sans un mot, dans ce réduit sans air. Nous étions face à face, assis sur le sol. Un bruit de radio derrière la porte, des pas dans l'escalier, deux tirs sous la terrasse, quelques rires. Une caserne au milieu d'un théâtre romain. Nous sommes passés de l'autre côté de la maison jaune, derrière le puits de lumière qu'avait imaginé l'architecte. Après deux volées d'escaliers détruits, je suis entrée dans le bastion des snipers. Pas un mur de l'immeuble Barakat n'avait résisté à la guerre, mais là, dans cette pièce fortifiée par les miliciens, aucune trace, pas d'impact, de griffure, rien. Jusqu'au plafond, ils avaient élevé une muraille, un rempart de moellons bruts. Ils avaient eu la main lourde, les blocs n'étaient pas alignés. Ils vomissaient leurs mortiers jusqu'au sol. Dans cette fortification épaisse d'1,80 m, les architectes guerriers avaient creusé 3 meurtrières rectangulaires permettant de poser l'arme et les munitions. Robert et Kim ont tiré presque ensemble. Le choc a été violent. La pièce faisait chambre d'écho. La meurtrière renvoyait le feu, la fumée, la poudre. Tintement des douilles sur le carrelage. L'une d'elles a roulé près de ma chaussure. Elle fumait. Je n'avais jamais vu la bataille d'aussi près. La bagarre, la violence, la colère, mais pas la mort des hommes. J'ai senti la jambe du chrétien se raidir, puis trembler. Mon Dieu, il tremblait. Son frémissement parcourait mon corps. Je le maintenais de toutes mes forces, je le contenais. Après avoir applaudi à la Palestine, je regagnais le camp d'en face. Il a tiré 3 coups. D'une violence folle, l'impact a frappé son épaule, son torse, ses jambes, mon cou, mon épaule, mon bras. Le cuivre des étuis a cogné le mur. Je n'avais pas mis de coton. Mes oreilles sifflaient, je grimaçais, l'air était irrespirable, de poudre acide. La jambe du sniper se calmait, redevenait solide. C'était effrayant, c'était bouleversant. Un instant, je me suis dit que j'avais plus vécu en 5 jours que durant ma vie entière, et qu'aucun baiser de Louise ne vaudrait jamais la petite Palestinienne, retrouvant les mots d'un poète en levant le poing. J'ai secoué la tête, vraiment, secoué pour chasser ce qu'elle contenait. J'ai eu honte. Je pouvais rentrer demain, laisser tomber, revenir en paix, vite.
Oui, donc là, c'est un petit peu comme au début du roman, l'expérience physique de la guerre. Finalement, Georges a été menacé, bien sûr, dans son parcours en voiture pour venir retrouver le phalangiste. Mais c'est dans le bunker qu'il refait directement contact avec les combats. Et il va ressortir du bunker, retourner dans le centre-ville. Et Marwan va l'emmener rencontrer d'autres membres de la communauté libanaise, un peu plus calme cette fois, et je vous le lirai tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, au fil des pages, de passer de la paix à la guerre, de la guerre à la paix, de la menace permanente à la menace physique, de la menace qui plane à la menace réelle. Et donc, on voit bien dans ce cœur du roman ce que finalement Chalandon a voulu dénoncer, effectivement. C'est cette situation du Proche-Orient, toujours totalement instable et toujours prête à reprendre feu. Alors voilà, le lendemain, Marwan m'avait installée en majesté à son côté sur le siège avant. Nous avions laissé la voiture rouge, repris la Mercedes, tout allait bien, on était en zone de paix. Il roulait vitre ouverte avec les chansons de Farid El Attache au bord des lèvres. Nous étions partis, nous avions traversé Saïda au petit jour. Nous allions dans le sud Liban. Bon, c'était pas merveilleux, mais quand même. On se retrouvait au coude à coude dans une zone où Druze et Chiites survivaient en commun. L'alliance pouvait changer localement dans la nuit pour une place de parking ou un regard de travers, mais les dirigeants tenaient leurs troupes. À la sortie de Saïda, nous avons pris la route de Nabatieh, au cœur du royaume chiite. Les gardes de Créon vivaient là, enfin ceux qui allaient devenir les gardes de Créon, et aussi Eurydice. Nous étions toujours au Liban, mais un peu en Iran. dans cette partie religieuse que le mouvement Amal islamique avait instaurée comme une république des Mollahs au pays du Cèdre. Mais cette république était paisible. Marwan racontait cela en disant que c'était un peu fou en se frappant la tombe de l'index. Nous allions rencontrer le père de nos trois acteurs qui était dignitaire de ce mouvement Amal chiite, Anna Battier justement. Parce que sans son accord, les jeunes gens ne pouvaient rien faire, rien entreprendre, encore moins paraître sur une scène de théâtre. Voilà, ils avaient reçu leur exemplaire d'Antigone quelques semaines auparavant et nous avions besoin de l'accord du père pour qu'ils viennent interpréter leur rôle dans Antigone. Parce que leur refus aurait sonné l'heure de mon départ. J'avais besoin d'eux. Et c'est aussi ce qu'il s'était passé finalement pour les phalangistes. J'avais dû rencontrer le frère aîné parce que c'était lui, Joseph Boutros, qui décidait du jeu de son petit frère et qui m'avait dit « Ah oui, alors en fait, tu veux que mon petit frère enterre vivante une Palestinienne ?» Bon, c'était un peu ça. J'avais eu l'autorisation de Joseph Boutros, j'allais maintenant rechercher celle du chef chiite. Les forces libanaises avaient baissé la garde et nous entrions sur un autre territoire. Nous avions la paix, un peu comme des brancardiers qui vont chercher les blessés pendant la bagarre. Le chrétien avait arrêté la guerre presque 2 heures pour m'accueillir. Il avait lu Antigone et il pensait que l'obstination à mourir de la jeune femme était peut-être risible, vaine. Il m'avait dit que son entêtement était aveugle, mais au fond, il appréciait que je sois venue chercher son jeune frère pour incarner Créon. Créon, c'était le puissant, celui qui dirigeait la cité, qui était craint par le peuple, qui œuvrait pour l'intérêt de tous, qui gardait la tête haute, qui échappait au déshonneur. Oui, bon, c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais il avait dit « Cette lecture me va ». Et j'aimerais finalement qu'elle convienne aussi aux spectateurs. Alors en retournant vers l'ouest, tout s'était bien passé, aucun tir n'avait salué notre passage. Et ce matin, voilà, nous étions repartis vers le sud Liban. Je n'avais jamais vu auparavant du Liban que la ville. Et brusquement, au pied des collines sèches, des oliviers, des pinèdes à perte de vue, j'ai pensé que c'est là que nous aurions dû jouer Antigone. Nous aurions dû quitter Beyrouth pour jouer Antigone et l'interpréter là, au cœur de ces collines méditerranéennes. Offrir à la rebelle autre chose qu'un cinéma détruit, mais ce cadre merveilleux et éternel. Jouer sous les étoiles plutôt que parmi les maisons en ruine. C'est beau, n'est-ce pas ? A demandé Marwan. Il avait lu mon silence. Il m'a dit que, un peu plus au sud, le Chouf était plus bouleversant encore, avec ses cascades, ses montagnes, ses cèdres, avec des roches, du miel. Je me suis laissée aller contre la vitre. Nous avons abandonné la guerre pour une autre partie du pays. Et nous sommes arrivés à Nabatier avec un soleil d'hiver. Les hommes d'Amal islamique nous ont guidés dans la ville jusqu'au faubourg de l'Est, jusqu'à une maison basse couverte de sacs de sable. Une fois encore, il avait été convenu que Marwan resterait à l'extérieur près de la voiture. Je m'inquiétais souvent de sa solitude, mais non, il préférait le silence à certaines rencontres. Moi, j'allais à mes rendez-vous et lui, au volant ou sur la banquette arrière, il lisait, il dormait, il écoutait la radio. Sa voiture était comme une autre maison. Il emportait de l'eau, du pain, du café, et il était là, tranquille. « Tu vas être reçu par le cheikh Mamar al-Sadek, le père de tes acteurs, et l'oncle sera là aussi », m'a expliqué Marwan. Ce dernier m'a demandé de me déchausser sur le seuil, de ne pas tendre la main le premier, de ne pas regarder dans les yeux et de ne pas poser de questions. Seulement répondre à celle de la famille. j'étais haram, impur, et je ne devais rien souiller dans la maison. Donc une fois encore, j'avais un peu la crainte au fond de la gorge. Mais bon, je me suis rassurée, je venais délivrer un message qui n'était pas le mien, c'était celui de Sam, je venais défendre un projet que je n'avais pas initié, mais finalement je venais exécuter les dernières volontés d'un mourant. Et pour cet homme, cet ami, ce frère, j'étais prêt à prendre tous les risques. Voilà, j'ai enlevé mes chaussures. À la porte, deux hommes barbus sont venus m'encadrer avec leurs fusils d'assaut, avec leurs longs camises blancs, leurs visages sombres. J'ai été fouillée sérieusement sous les bras, les manches, la ceinture, le dos, le ventre, les fesses, les chevilles, le dessous des pieds. Je suis entrée dans une pièce petite, couverte de tapis et de coussins. Une fenêtre obstruée par un rideau vert, au mur une sourate encadrée d'or et une tapisserie de la Mecque, et une photo du mausolée irakien de l'imam Ali à Najaf. Un garde était là, assis sur un fauteuil de jardin, et j'ai attendu. Quand le cheikh est entré, le barbu qui était là m'a fait lever d'un geste. D'autres gardes sont entrés aussi, derrière lui. Le religieux a pris place dans un fauteuil, le seul fauteuil. C'était un très vieil homme. Il s'appuyait sur une canne, mais il me tournait le dos. « Vous êtes ici parce que je l'ai souhaité. » J'ai frissonné. Il parlait un anglais rocailleux et il s'adressait au mur. Avec Hassan, mon frère, nous avons longtemps parlé de votre pièce. Lui est contre ce projet. Il estime qu'un acteur fait acte de ressemblance avec les mécréants, que jouer un rôle, c'est mentir, et donc c'est péché. Il estime que celui qui imite sera considéré comme impie. Il entendait les paroles prononcées, l'autre là, le frère, mais il ne disait rien. Finalement, j'ai lu aussi votre pièce, nous avons parlé. J'ai pensé que non, ce n'était pas faire acte de médisance, qu'elle ne représentait ni le prophète, ni ses messagers, qu'elle ne manquait de respect à aucun de ses compagnons, qu'elle n'insultait pas l'islam, qu'elle ne cachait ni nudité, ni insulte, ni souillure. Le cheikh a sorti un mouchoir de sa manche, s'est essuyé le nez, les yeux, le visage. Mes fils, ceux qui vont jouer les gardes, ils m'ont dit que leur rôle de garde serait d'entourer le chef, de le protéger comme un père et de faire respecter son autorité. Ils m'ont expliqué qu'une jeune femme défiait le chef et qu'à travers lui, elle narguait la loi divine, et que ce calife bien guidé mettait un terme à cette arrogance de femme. Le vieil homme s'est tu, il s'est retourné légèrement. C'est cela ? Oui, oui, c'est cela. Oui, oui, c'est bien cela, monsieur, c'est bien cela, Cheikh Mamar El Sadek. Alors il s'est retourné contre le mur. Donc Antigone, dérobée par les uns, dérobée par les autres... bizarrement traduite par certains. Finalement, j'étais d'accord, je ne pouvais qu'être d'accord. Et le rôle de la vieille, quel est-il ? Pourquoi tricote-t-elle ? Vous savez, je bredouillais, c'est la femme du calife, elle est très pieuse. Elle passe sa vie à tricoter des vêtements chauds pour les pauvres de la ville. C'est la zakite, l'aumône aux indigents. Ah oui, alors que Dieu soit satisfait d'elle. Au début de la conversation, j'avais eu envie de rire. Cet homme parlant au rideau, les autres qui me reniflaient comme une meute renifle un chevreuil, et puis l'acier des armes, la voix douce, les mots choisis avec soin. Finalement, j'étais redevenue paisible. Et Anouilh revisitée par les chrétiens, Anouilh transfigurée par les chiites, finalement, ça me permettait de faire cette pièce. Créon, vieillard fatigué par la guerre, qui ne veut que la paix pour son peuple. Créon qui tente jusqu'au bout de sauver sa nièce. Créon qui fait le sale travail, mais qui laisse force à la loi. Créon devient finalement un chef phalangiste, ben oui, d'un côté de la ligne. Et de l'autre, il est un calife éclairé. Oui, j'avais une drôle de musique en tête, une musique du Proche-Orient. Et finalement, c'est comme ça que j'allais pouvoir faire la pièce. Les gardes ne m'avaient pas quitté des yeux. Ils étaient debout, autour du chèque. Mais tout allait bien. J'allais pouvoir repartir après avoir rencontré mes trois jeunes gardes. J'avais rencontré Antigone, j'avais rencontré Créon, j'avais rencontré les trois gardes. Je savais que le vieux cinéma allait pouvoir servir de théâtre. Et puis, j'étais chez Marouane. Et chez Marouane, je pouvais rencontrer Aymon, puisque Aymon, c'était le fils de Marouane. Alors, nous allons en rester là pour cette semaine. Nous retrouverons peut-être le Proche-Orient la semaine prochaine. En tout cas, nous formons des vœux, effectivement, pour le Proche-Orient. Et nous remercions Antigone et la mise en scène de Georges d'avoir apporté, au moins dans la fiction, 2 heures de paix au Liban. Au revoir, à bientôt.
Tenez, 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 tenez-vous prêts.